Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. La dernière fois que nous étions vus, que j'étais présent, c'était il y a deux semaines. C'était le culte collectif. Et j'ai été frappé par ce qui avait été dit par le prédicateur à propos des fans de Dieu et des supporters de Dieu et de ceux qui le suivaient vraiment. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là. Et puisque la Coupe du Monde a commencé, en fait. Je me suis retrouvé dans la peau du supporter, mais c'est vrai que être avec notre Dieu, c'est bien plus que d'être le fan club. Ça implique, et il expliquait très bien, beaucoup plus de sincérité, de vérité et d'engagement. Et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc, pour ceux qui nous visitent, nous avons choisi de nous occuper des psaumes. Depuis le début de l'année, et donc je vais parler d'un psaume qui va aussi faire suite à une réflexion que je me suis faite la semaine dernière. Donc j'étais pas là parce que j'étais à Paris pour aller voir mon fils, et en fait j'ai vécu pendant quelques jours des choses amusantes qui allaient dans le sens de ce que je vais vous raconter aussi. Donc j'ai un fils de 34 ans et je lui avais offert il y a longtemps d'aller voir le concert de Roger Waters. Pour les plus anciens, c'est un des fondateurs du groupe Pink Floyd. Vous voyez, ça remonte. Donc, on était dans une immense salle de Paris. On était 8 ou 9 000. Lui, il a 76 ans. Donc, je vous laisse imaginer la moyenne d'âge du public. J'avais l'impression que mon fils était un petit bébé par rapport à tous les gens qui étaient là. Et tout le monde était content de revivre, en fait, un peu de la nostalgie de la jeunesse passée, puisque c'est des musiques qui datent des années 60, 70. Et puis quelques jours plus tard, parce que vous savez, j'ai une fille de 8 ans, donc c'est le grand écart, et je l'ai amenée donc il y a 3 jours au concert de Louane à Nice. Donc j'avais fait mes deux charges paternelles, une fois Pink Floyd, une fois Louane. Alors là, la chanteuse, elle a 20 ans, elle débute, le public c'était que des gamines de 8-10 ans, avec les parents qui étaient là et qui faisaient ce qu'il fallait pour que les enfants soient heureux. Et en fait, c'était la même joie, sauf que le public était totalement différent, parce que c'était pas les mêmes générations. Et c'était très amusant de voir comme les anciens, dont je suis, essayaient de jouer le jeu, quand on était au concert à Paris, de se dire, on va faire comme c'était comme avant, mais on sentait bien que c'était plus que tout à fait comme avant, parce qu'on n'était pas dupes du temps qui était passé, et du fait que finalement, c'était plus notre âge, entre guillemets. Et de voir les gamines au concert de Louane, qui elles, était dans la joie de la découverte, dit oui, c'est nous, c'est nouveau, tout est extraordinaire, les lumières, le son, c'était leur premier concert pour toutes. Et elles avaient l'impression que le monde leur appartenait, que ce qu'elles vivaient était unique et extraordinaire. Et puis dans 40 ans, elles iront voir Louane en petite chaise qui ira chanter, et elles amèneront leurs propres enfants, voir Rebecca ou je ne sais pas qui, et ça sera cette marche toujours recommencée qui sera là et qui nous fera prendre conscience du temps qui passe et en fait de sa grande illusion. Ce temps qui rythme nos vies et qui est en fait en même temps notre repère mais aussi notre piège. Et c'est ce que raconte le psaume 90 que nous allons étudier aujourd'hui. Le psaume 90, vous allez voir que ça rejoint ça parce que ça parle évidemment du temps qui passe, de ce temps qui est une illusion. Et une fois qu'on a compris que ce temps est une illusion, on est forcé de revenir aux fondamentaux de ce qu'est notre foi, au-delà du temps, au-delà de notre présence qui est très rapide. Et ce psaume est très particulier parce que c'est le seul dont il est dit qu'il est la prière de Moïse, homme de Dieu. C'est ainsi qu'il commence. C'est le seul psaume qui est attribué à Moïse. Alors, les attributions, d'autres en ont parlé avant moi, on sait très bien qu'elles valent ce qu'elles valent. Mais quand il y a marqué, comme dans l'ensemble des psaumes, que c'est les psaumes de David, voire de Salomon, c'est des psaumes qui sont attribués autour de l'esprit de David. Les Juifs disent qu'en fait, ce sont des psaumes qui permettent d'être avec David, parce que c'est l'homme qui a vécu une vie incroyable. Et quand on fait le résumé de son existence, en fait, il a vécu toutes les joies et les vicissitudes que nous sommes censés vivre. Et c'est pour ça qu'il exprime les différents sentiments de joie ou de détresse dans tous ces moments-là. Et nous, enfin, c'est ce que disent les Juifs, mais je suis d'accord avec eux, c'est avec David, à travers son expérience, nous pouvons comprendre et l'appliquer à notre propre vie, ce qu'il ressent de bien, de moins bien, les prières, les supplications, etc. Mais celui-ci, non. Le 90, c'est le seul. Donc, on remonte dans le temps. Alors, comment est-ce qu'ils l'ont eu, ce psaume de Moïse? Ça, c'est pas à moi de le dire. Toujours est-il qu'il est dans ce livre des psaumes et qu'il nous dit des choses extrêmement intéressantes du fait même de son unicité. Parce que, quand on lit « Prière de Moïse, homme de Dieu », à mon avis, il faut écouter. Parce que Moïse, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que si Moïse, il vient, il dit « Moi, Moïse, je vais vous faire une prière et je vous la transmets, puisqu'elle est dans notre Bible », il faut ouvrir grand les oreilles, parce qu'avec Moïse, on touche au fondement même de la relation avec Dieu. Une relation unique. Il n'y a que Moïse qui a eu cette relation-là. Parce que, si on fait un résumé rapide, Moïse, c'est d'abord l'homme de la survie miraculeuse. Un petit bébé qui aurait dû mourir sur le Nil, hop, il est sauvé. C'est l'homme de la jeunesse unique, royale, élevé dans la famille de Pharaon. C'est aussi l'homme qui va, d'un coup, de colère quand il tue l'Égyptien qui maltraitait le peuple hébreu, qui va fiche toute sa carrière en l'air, en quelque sorte, au nom de l'injustice qu'il ne supporte pas. Et donc, c'est un homme qui va être un homme de l'exil pendant 40 ans. Il va vivre à Madian, complètement reclus, petit berger, enfin, une chose qui n'avait rien à voir avec sa vie précédente. C'est surtout l'homme du buisson ardent, c'est-à-dire appelé par Dieu, en direct, à diriger le peuple d'Israël. C'est l'homme qui aura le courage de retourner en Égypte, où sa tête était quasiment mise à prix, et de là d'affronter le Pharaon, la plus grande puissance mondiale de l'époque, de vaincre le Pharaon à travers les 10 plaies, non pas par sa force, mais en se basant que sur la force que Dieu lui avait dit qu'il lui donnerait. Donc c'est l'homme de la confiance absolue. Et ensuite c'est l'homme de l'exode, et de la responsabilité d'un peuple de centaines de milliers d'âmes qu'il va falloir sortir d'Égypte et amener vers la terre promise. Mais c'est donc le chef d'un peuple aussi perdu, d'un peuple retors. C'est aussi l'homme de la rencontre avec Dieu sur le mont Sinaï. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter de cette rencontre-là. Dieu qui lui dicte les tables de la loi. Mais c'est aussi l'homme qui a dû affronter le veau d'or et qui a dû affronter la colère de Dieu. Je vous rappelle que Dieu dit « Je vais détruire ce peuple et de toi, je ferai une grande nation. » Mais les autres, ciao, bye bye. Et lui, il dit « Non, 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 pitié, tu les as amenés jusque-là, tu ne peux pas les détruire. » Je ne vais pas vous relire les textes qui sont dans Exode. C'est l'homme qui a mis en avant la collectivité dont il avait la charge au mépris de sa propre gloire personnelle. Il aurait pu passer de pharaon, il était redescendu à chef d'un peuple unique, renouvelé, et il fait de l'intercession pour sauver ce peuple-là, peuple qui sera puni, puisque là, cette génération-là ne pourra pas rentrer dans la terre promise, donc il sera le chef de la génération maudite, il sera l'homme qui aura contemplé la terre promise avec Dieu qui va le guider en haut de la montagne pour voir au-delà du Jourdain, ce sera l'homme qui va être enterré par Dieu. Dans Deutéronome 34,6, il est dit « Dieu enterra Moïse ». Et enfin, c'est l'homme de la transfiguration, avec Jésus et Élie dans Matthieu 17,1. Donc quand cet homme qui a vécu tout ça, et je vous mets au défi, à part notre Seigneur bien sûr, mais je vous dis un homme qui n'est qu'un homme, je vous mets au défi dans la Bible de trouver quelqu'un qui a eu cette vie-là, qui a eu ce rapport avec Dieu. Il dépasse tout le monde. Et quand cet homme dit « Je vais prier, je vais vous transmettre ma prière », je pense qu'il faut écouter ce qu'il a à nous dire. Et ce qu'il nous dit, c'est très important. Ce sont les fondamentaux de l'identité de Dieu. On revient à ce qui ne devrait jamais être éloigné de notre cœur et de notre cerveau. Et c'est en ça que je refais le lien avec mes histoires de concert, que parfois on est mis dans des situations où soudain, tiens, on réfléchit un peu sur notre situation, on dit, ah ben oui, mais tout ça, c'est du vent, c'est du temps qui passe, c'est des beaux moments, mais paf, ça disparaît. Et revenons aux fondamentaux. Et les fondamentaux, là, ils vont être très très clairs. Ils vont être tellement clairs qu'ils ne vont pas être très agréables à écouter. Parce qu'à un moment, il faut bien que nous, chrétiens, et les hommes en général, on soit aussi capables d'accepter Dieu tel qu'il est, qui n'est pas n'importe qui, c'est pas le Père Noël, c'est quand même la puissance absolue, le créateur de toutes choses, et c'est ce que nous rappelle Moïse. Et donc je propose que nous voyons ensemble les quelques vérités fondamentales, ce retour aux sources absolues que Moïse, dans le seul psaume qu'il nous transmet, met en scène. Le verset 1, « Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Alors ce qui est intéressant, c'est que il faut le remettre dans le contexte, il écrit forcément ça, il le fait écrire qu'importe, au moment où il est dans l'Exode. Alors, il y a même certaines personnes, certains érudits qui ont été capables de dire que c'était la 38e année de l'Exode. Bon, soit, mais on est, donc vous voyez bien la situation, le peuple a été condamné à errer pendant 40 ans, lui sait très bien que cette génération ne passera pas, donc c'est pas un moment facile non plus. Et il dit, donc Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Depuis Abraham, le peuple de Dieu n'a jamais eu d'habitation fixe. Ils ont été un peuple de nomades, etc. Et pourtant, le cœur du peuple de Dieu, leur vraie habitation, leur vrai refuge, ça a été leur foi dans leur Dieu. Et évidemment, pour nous, on est content, on vit dans une société où a priori chacun a un toit, chacun a ce qu'il faut, mais on est bien conscient de la fragilité de ces choses-là. Et il faut vraiment que tu aies été pour nous un refuge de génération en génération. On se dise que notre vraie maison, ce fameux temple dont on parle, il est en nous. Et c'est ça qui est notre abri. Première vérité, Dieu seul est solide, fixe, certain, indestructible. C'est la seule maison de pierre, avec des fondations de pierre, ce n'est pas du sable. Deuxième vérité, au verset 2, « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu étais Dieu. » Dieu est l'éternité. C'est-à-dire, la première maison dont on se tare, qui est la terre, on se dit « j'ai les pieds dessus », c'est lui qui l'a fondée. Donc, nous ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Ce sur quoi on repose, même si on n'a pas tout au-dessus de la tête, c'est lui qui l'a créé. Donc on est locataire d'un lieu qui a été créé par lui. On n'est propriétaire de rien. Troisième vérité, au verset 3, tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez. Dieu est le maître de la vie. L'ordre de la déchéance de Genèse 3:19, quand l'arbre, le fruit de l'arbre a été cueilli, etc., quand il dit, ben, vous retournerez poussière, etc., c'est Dieu qui décide. Dieu décide de la vie, Dieu décide de la mort. Là, il a décidé que, de façon sans appel, cette erreur, cette désobéissance de l'homme était punie de la fin de la vie, de la déchéance, du retour à la poussière. C'est pas nous qui décidons quoi que ce soit. C'est lui, le maître de la vie. Quatrième vérité, verset suivant, et ça vous connaissez ça, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. Dieu est aussi le maître du temps. Ce temps dont nous les hommes nous sommes si fiers, que nous réglons, que nous dirigeons, on fait des calendriers, on fait des projets, etc. C'est notre matrice, c'est notre boussole, ce temps-là. Ce temps-là, pour lui, il n'a aucune importance. Il en fait ce qu'il veut. C'est lui qui le dirige. Puisqu'il est le maître de la vie, il est forcément le maître du temps. Et notre temps que nous croyons nous appartenir, que nous croyons être le nôtre, que nous croyons posséder, sur lequel nous croyons avoir un pouvoir, c'est une illusion absolue. Ce temps, il peut nous être enlevé on n'a rien de temps. Tous nos plans peuvent être chamboulés. C'est pas nous qui dirigeons ça. Dieu est le maître du temps. Quatrième vérité. Et cinquième vérité, au verset 5, tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nos existences, désolé de vous le rappeler, ne sont qu'insignifiance. Nous sommes des brins d'herbe, c'est bien dit. Notre ego, dans ce cadre-là, est totalement ridicule. Nos batailles, nos orgueils sont absurdes. Nous ne sommes rien, nous sommes des brindilles qui, à peine éclosent le matin, dès le soir, c'est terminé. Et c'est tellement vrai que l'humanité, dès qu'elle réfléchit un peu, dès qu'elle poétise, quelles que soient les époques, c'est ce qu'elle va dire. Je ne peux résister de vous lire le célèbre poème de Ronsard, « Mignonne, allons voir si la rose » qui ne dit que ça. « Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette vépraie, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. » Las, voyez comment peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Las, las, ses beautés les séchoirs. Oh, vraiment, marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Poème absolument magnifique et très connu, 1400 et quelques. Cette notion du temps qui passe n'a pas arrêté d'être présent dans la réflexion des hommes dès qu'ils se posent. On peut revenir beaucoup plus près de nous, France Gall. Vous voyez, je passe de Ronsard à France Gall. Donc je ratisse large. Je suis bien passé de Roger Waters à Louane. Une chanson qui s'appelait « Bébé comme la vie ».« Bébé comme la vie passe vite avec ses amis. C'est l'heure de dire bonjour, comment ça va ? C'est fini déjà. » Bébé, comme la vie passe vite avant qu'on ait compris, c'est l'heure de dire où suis-je, quel est ce monde-là, et adieu déjà. Cette vérité de ce temps que nous ne maîtrisons pas et qui est une illusion, elle est ancrée totalement en nous, consciemment ou inconsciemment. Mais il n'y a pas un moment dans nos existences où on se retrouve dans une situation où on a la perception, la réalité absolue de cette vérité-là. Voilà ce que veut nous dire Moïse dès le début. Il veut nous dire, il n'y a que moi qui suis solide, qui suis fixe, qui suis immuable. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est moi qui l'ai créé. Rien n'est à vous. Je suis le maître de la vie. Je décide de tout. Et je suis le maître de votre temps que vous croyez posséder. Vous ne possédez rien. Et tout peut disparaître du jour au lendemain. Ce que vous vivez qui vous semble si important ne dure que le temps de la rosée. Voilà les vérités. Et on en est tous conscients et c'est ça qui nous fait mal. C'est ça qui nous fait peur à certains moments. Parce qu'on se dit, une fois qu'on a compris ça, bah oui, mais Ronsard ne propose pas de solution, France Gall non plus. Alors, ça pourrait déjà s'arrêter là, et c'est déjà pas mal de s'en prendre plein dans la tête comme ça, mais il continue. Quand Moïse parle, il dit pas n'importe quoi. Et il dit, et c'est les versets suivants, une fois que ces fondamentaux sont bien mis en place, c'est-à-dire la mise en perspective réelle de ce que nous sommes vraiment, Moïse en tire la conséquence. Bien sûr, liée au contexte historique dans lequel il vit, donc cette génération maudite, mais qui s'étend à nous tous. Dieu est terrible. Dieu est furieux, Dieu est en colère à cause de nos fautes, à cause de nos manques, à cause de nos mensonges, à cause de tout ce qu'on a raté, de tout ce qu'on a renié. Et c'est le verset suivant, « Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. » Dieu ne peut pas être un bisounours. À la lumière des cinq vérités dont je viens de parler, il ne peut pas soudain dire « Bon, mais c'est comme ça, mais on va essayer de réparer, on va faire des câlins, tout ça, ça va aller. » Non, Dieu est en colère. il est forcément en colère puisque il est le maître de tout ça et que nous, on ne rentre pas dans ces vérités-là. Enfin, nous, au sens large. Et la finitude que nous ressentons tous, dont nous venons de parler, elle est le résultat de sa colère contre nous. Elle est même elle est la conséquence de notre rébellion initiale. Ce n'est pas Dieu le coupable. Et c'est la vérité numéro 6 que trop de gens ne veulent pas entendre. C'est nous les coupables. Et c'est ça qui nous rend faibles. C'est pas Dieu qui nous rend faibles. C'est notre culpabilité, notre refus de voir ces vérités-là en face et de voir comment il permet, Dieu, qu'on y remédie. C'est ça qui nous rend faibles. Et comme disait Marcel Pagnol, on n'est jamais aussi faible que quand on est dans son tort. Le château de ma mère. Et c'est cette faiblesse qui va nous tuer. C'est cette faiblesse qui fait qu'on retourne à la poussière. Et cette faiblesse, elle ne vient que de nous. Elle ne vient pas de lui. Et il est dit, je continue, « Car tous nos jours déclinent par ton courroux, nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. » C'est intéressant de voir qu'on pense que David a vécu en gros 70 ans. Lui, Moïse, si on compte tout, il a dépassé le cap des 100 ans. Mais encore une fois, il se met à notre place à nous. Il pourrait dire, moi, de toute façon, je vais vivre très longtemps, donc je ne suis pas dans cet état-là. Mais il se met dans la moyenne générale pour bien faire comprendre qu'on est tous sur le même bateau et que ce que nous devons comprendre, c'est individuellement que collectivement, sous le regard de Dieu, la situation puisse évoluer. Toutes ces vérités qui sont, vous allez voir n'importe qui dans la rue vous dites ça, a priori, ne serait-ce que le temps, c'est quasiment inattaquable, mais ça n'empêche pas l'amnésie des hommes, leur entêtement, leur aveuglement. Ce matin, je regardais des choses sur Facebook par rapport à mes activités professionnelles, et je suis tombé sur un texte d'une personne que je ne connais pas, parce qu'on tombe sur les textes, alors j'ai essayé de le retrouver, mais alors une fois qu'on a lu quelque chose, c'est un tel maelstrom que hop, ça disparaît. C'est aussi typique de ce temps faux, le temps du virtuel est encore plus faux parce qu'on ne retrouve rien. Mais je m'en souviens, et c'était un gars qui disait « Oui, je suis contre les religions, etc., qui ne mettent que un truc très, très, très habituel », et il finissait « Et je refuse que l'on me mette sur le dos l'étiquette que je suis un homme issu d'une pensée supérieure à moi, issu d'un projet qui aurait été un projet divin. Je refuse ça. Je suis moi-même Albert Ratatouille, je ne sais pas comment il s'appelait, et fier de l'être. Je ne demande rien à personne avant et rien à personne après. » Et plein de gens avaient mis des cœurs, des likes. « Ouais, super, t'as raison. Freedom for everybody. » C'était très bien. Mais quel aveuglement! Quelle fierté dans cet aveuglement-là. Ce que nous dit Moïse, il faut craindre Dieu. Ayez peur de Dieu. Ne rigolez pas avec Dieu. Et ça revient aux fameuses prédications d'il y a 15 jours sur le fan et le disciple. On est sous le regard de quelqu'un qui a énoncé les vérités que j'ai dites et qui sont... Même si on pense que Dieu n'existe pas, notre état montre qu'il y a un truc bizarre. Donc craignons au moins ce truc bizarre, même si certains ne veulent pas mettre de nom dessus. Mais n'ayons pas cette attitude de refus, de fierté, d'orgueil, de dire « moi je suis une brindille, un brin d'herbe, et pourtant je comprends tout, je sais tout, j'ai besoin de rien ni de personne, et je suis très très heureux de mes 70 ans sous le soleil. » Non. Parce que ce que nous dit Moïse et que ses fondamentaux qui sont en place, et c'est là que sa prière commence vraiment, c'est que la vie humaine, elle se trouve entre deux points en fait. Entre la colère de Dieu qui rend notre vie éphémère et vaine, ou bien entre la paix avec Dieu qui donne à notre vie stabilité et durée. Et Moïse, ce qu'il veut à la fin de son psaume, évidemment, c'est la paix. Et voici ce qu'il nous dit. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Après tout ce que j'ai dit qui est brutal, violent, mais inattaquable, il propose le calumet de la paix avec ce Dieu-là. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours. Moïse veut la paix. Et l'enseignement, c'est la paix. Parce que l'enseignement, c'est le partage. L'enseignement, c'est l'écoute. L'enseignement, c'est être ensemble. C'est donner de la valeur aux choses quand on enseigne, parce qu'on transmet. Si on transmet, c'est qu'on donne quelque chose, donc on donne de la valeur. Et que doit-on enseigner, être enseigné par notre Dieu, à compter nos jours? C'est-à-dire donner de la valeur à chaque jour vécu en mettant de la sagesse dans nos choix. Et vous connaissez ce proverbe qui dit « La crainte de Dieu enseigne la sagesse ». C'est-à-dire que cette crainte qu'on doit avoir de Dieu, ce respect par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment sur les fondamentaux, eh bien, elle doit nous amener non pas à « Tu me terrorises, je ne suis pas d'accord avec toi, je me débrouille seul et je vais sur Facebook », mais à « Ça me rend sage ». Ça me rend sage. La sagesse, c'est, vous le savez très très bien, c'est le « je mets mes passions de côté », je mets mes pulsions sous le bureau, je me mets assis, j'ouvre mon cœur, j'écoute, je regarde, je me retire de la folie du monde et je suis en relation avec cette puissance-là. Forcément, si j'y crois pas, j'essaie d'ouvrir ce qu'on a tous fait à un moment ou l'autre avant notre conversion. Pourquoi suis-je sur cette terre qui tient le coup, qui est solide? Pourquoi ne suis-je pas maître de ma vie? Pourquoi ne suis-je pas maître du temps? Pourquoi je ne contrôle rien? Et pourtant, je ressens au fond de moi tout ce besoin d'éternité dont on va faire des poèmes de Ronsard à France Gall. C'est ça la sagesse. Et juste après, donc, enseigne-nous ainsi et comptez nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Il y a cette phrase extraordinaire. Reviens, éternel. Jusque à quand ? Point de suspension, nous devrons attendre ton retour. Reviens, éternel. Revenir. On a vu qu'on avait un Dieu en colère, à juste titre. Et Moïse, qui lui est en contact avec lui, donc il n'a pas besoin de le dire, mais pour nous, il va le dire. Reviens, parce que si quelqu'un revient, il n'y a plus la colère. La colère, c'est la séparation. Quand on est fâché, on ne se parle plus, on ne se voit plus. On s'évite. Si on se retrouve, on éloigne la colère. Reviens, éternel. Le retour, c'est le pardon. Le retour, c'est l'amour. C'est la fin de la colère. Et c'est ça la prière de Moïse, puisque c'est indiqué comme ça. La prière de Moïse, c'est le retour de Dieu. C'est la fin de la colère. Non pas la fin des causes de la colère. La colère, elle est établie et elle est juste. Maintenant, à partir de cette colère, comment est-ce qu'on évolue ensemble ? Et on a peut-être une chance énorme par rapport à Moïse, même si sans doute, lors de la transfiguration, il a rencontré Jésus, puis il savait sans doute plein de choses, puisque c'est aussi un prophète, c'est que nous, le revient éternel, on l'a vécu. Cette prière que Moïse fait à Dieu, nous, on en a les fruits, on en a les bénéfices, puisque, évidemment, revient éternel, c'est Jésus qui est revenu, c'est Jésus qui est là. Et toute la fin du psaume, c'est que des phrases de joie, que des phrases de bonheur, que des phrases d'espérance après ce dur constat que j'ai énoncé. Écoutez la fin du psaume. Donc, reviens éternel, jusque à quand ? Aie pitié de tes serviteurs. Et là, rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance. Et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Vous voyez là, soudain la bascule en un verset, à partir d'une démonstration implacable. Je suis ça, et je ne suis rien d'autre que ça, et je suis tout ça. Ça ne se discute même pas. Et parce que je suis tout ça, et que vous êtes ça, rien, je suis très en colère. parce que vous n'avez rien fait pour vous relier avec moi. La colère qui est la séparation, c'est vous qui l'avez créée. C'est vous qui êtes parti, qui avez tourné le dos. Moi, je suis en colère, mais je vous regarde. Vous avez tourné le dos sur Facebook. Ne m'embêtez pas, je suis indépendant. Fais ce que je veux, petit homme fort. Retournez-vous vers moi. Et à ce moment-là, il n'y a plus de colère. Parce qu'on se voit, on se parle. Et à ce moment-là, je vous donne tout ce que je viens de lire. Je vous donne la réjouissance après le malheur. Je vous donne la joie. Je vous donne même le triomphe au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire la satisfaction de ce que nous réussissons. Je te donne même des œuvres que je peux partager. Je te donne de la splendeur sur mes fils, c'est marqué. Je te donne de l'espérance, je te donne de l'espoir. Et on termine par un dernier verset qui est absolument extraordinaire. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Cette colère juste, à partir de ce Dieu tout-puissant qui maîtrise tout, elle va accoucher de la tendresse. À partir du moment où il est revenu, puisque Jésus est parmi nous, et que nous avons accepté non plus de lui tourner le dos, mais de le regarder, et d'accepter toutes ces vérités en face, de les prendre pour ce qu'elles sont, de le craindre pour ce qu'il est, et à ce moment-là, ce Dieu puissant qui est le maître de tout, devient le pourvoyeur de tendresse, cette tendresse dont on a tous besoin, dans toutes nos difficultés, parce que les difficultés sont là. Mais c'est ça la prière de Moïse. Reviens, Éternel, aie pitié de nous, il le dit. Et nous, il est revenu. Et cette tendresse, on l'a tous. Et on sait qu'on l'a au fond de nos cœurs. Quoi qu'il arrive, il n'y a rien de plus beau que la tendresse. La tendresse, c'est doux, c'est chaleureux, c'est complètement gratuit. Et au nom de cette tendresse, voici ce qui va se passer. Que la tendresse Seigneur notre Dieu soit sur nous, et les deux dernières lignes, affermit pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermit l'ouvrage de nos mains. À partir de ce moment-là, le petit brin d'herbe ridicule que nous sommes et pathétique, il redevient important. Et on fait quelque chose de nos mains, c'est-à-dire qu'on redevient quelqu'un. On a de nouveau une identité liée au rapport qu'on a de nouveau établi avec notre Seigneur. Et à ce moment-là, petit brin d'herbe, on reste, bien sûr, mais petit brin d'herbe d'une grande œuvre collective, d'une grande œuvre éternelle. Et à ce moment-là, on reste avec nos 80 années, nos 60, nos 30, qui reste rien du tout. Mais chaque jour, vous l'avez dit, chaque jour devient un jour important. Chaque jour a de la valeur. Et chaque jour, nous construisons quelque chose avec nos mains, pas ses mains, nos mains. Et quand il est dit dans les évangiles que nous sommes les ouvriers, voilà les ouvriers. Et chaque brindille à ce moment-là, chaque paire de mains va compter. Et chaque journée passée ici, de Louane à Pink Floyd, elle va avoir sa valeur, elle va avoir sa richesse. Mais elle ne l'a que parce qu'on a compris ce que nous dit Moïse, et qui n'est pas amusant à entendre, « Je suis, moi Dieu, le maître de tout, et je suis très en colère. Donc, tourne-toi vers moi, et je vais t'aimer tendrement. » Et à ce moment-là, toutes ces années qui, pour moi, valent 1000 ans ou une journée, et la rose du matin, chaque seconde va avoir une puissance et une richesse extraordinaire. C'est ça que nous dit Moïse dans ce psaume 90, et je pense que c'est peut-être un angle d'attaque intéressant quand on parle à des gens qui comprennent pas ce qu'on vit. C'est peut-être celui-là qui est le plus riche parce qu'il vient d'un homme qui est décidément vraiment pas n'importe qui.